Le mot de la semaine, la situation économique et financière de la France, 12 francs, je ne sais pas si on peut dire ça. Je vais vous faire un aveu très personnel, je dors mal depuis quelques semaines, la raison, la situation économique et financière de la France. Au lieu de compter les moutons, je regarde les indicateurs et les comptes de la France, et ils me désolent, et quand on les compare, on ne se console pas, mais on se désole encore plus. Activité économique dans le privé en contraction, jamais vue depuis 5 ans, chômage au-dessus de 8%, au coût de la dette en hausse, record de dette, le gouvernement pourtant prompt à dégainer des boucliers dans tous les sens, ne peut faire que du saupoudrage face à la crise en Iran. Est-ce que c'est grave, docteur? C'est pour vous, Anne-Sophie.
Alors, je vais vous dire non. Je sais que vous n'allez pas aimer cette réponse.
Non, mais moi, ce n'est pas grave.
Depuis 2-3 ans, on ne vit que par les crises. Et dès qu'il y a une crise, on dit que ça va être la récession, la crise mondiale, etc. Bon, la bonne nouvelle, c'est quand on fait le bilan, on voit que non. L'année dernière, on avait les droits de douane, on n'a pas eu de récession mondiale. Là, pour l'instant, on n'est pas encore dans ce scénario. Bien sûr, ça peut évoluer, mais non. Et donc, vous l'avez dit, en effet, l'économie française est en ralentissement. Et à mon sens, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on attendait un rebond. Donc, en fait, c'est plutôt le rebond et la reprise de croissance qu'on aurait dû avoir s'il n'y avait pas eu cette crise, que l'on n'aura pas. Donc ça, c'est vraiment, à mon sens, ce qui est négatif. On voit qu'on est, vous l'avez dit, le chômage qui augmente, une croissance qui ralentit. Mais
franchement, sans faire du French bashing, les chiffres sont vraiment noirs.
Les chiffres ne sont pas noirs. On n'est pas dans un scénario de récession. Et quand vous regardez les autres partenaires européens, notamment la situation en Allemagne, là aussi, vous êtes dans un fort ralentissement. D'accord, toute la zone euro ralentit. Et là, vous avez quand même une crise inflationniste importante. Et vous voyez que la France tient plutôt mieux, puisqu'elle a moins d'inflation grâce à son mix énergétique.
Mais si vous regardez en termes macro, le problème, c'est pas la guerre en Iran, quoi.
Non, il y a des sous-jacents macroéconomiques qui sont faibles. Mais c'est pour ça que le scénario, c'est un ralentissement et le rebond raté qu'on n'a pas eu, mais pas un scénario de récession ou vraiment de contraction très forte de l'économie.
Je comprends ce que vous dites, mais est-ce que ça change quelque chose?
Ça change tout.
Oui, mais attendez, déjà, vous êtes économiste, donc vous connaissez le sujet mieux que moi. Il y a une partie de notre croissance et de notre PIB, 18%, qui vient du secteur public. Et c'est pas de la production réelle, c'est-à-dire c'est une multiplication du nombre de fonctionnaires par le salaire, c'est pas de la création de richesse.
Alors ça déjà, quand vous regardez les pays de l'OCDE, on n'est pas le seul pays à être dans cette situation, et aujourd'hui, pour avoir de la croissance, c'est pas ça le sujet, c'est pas le secteur public plus ou moins important.
Oui, mais ça amortit les chocs, vous êtes d'accord?
Oui, ça amortit.
C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une...
On devrait peut-être avoir une... Et justement, quand vous allez à Choose France, les entrepreneurs vous disent que justement, d'avoir plutôt un secteur public, notamment dans les infrastructures ou la santé, c'est plutôt quelque chose de positif qui les invite à investir massivement en France. Okay. Donc ça, c'est plutôt un atout. Okay. Le problème que l'on a, c'est vraiment l'investissement. Donc ça, vous l'avez dit, on est une économie basée sur la consommation des ménages, beaucoup moins sur l'investissement. Et là, la problématique, c'est que l'année dernière, on aurait dû avoir une contribution positive de l'investissement. On ne l'a pas eu à cause du budget et des droits de douane. Là, c'est pareil en Iran. Comme on n'aura pas cette contribution positive à l'investissement, on ne sera pas sur du 1,2, 1,5. On va être vraiment à du 0,7, 0,8 de croissance cette année. Et donc, en ayant une faible croissance, qu'est-ce qu'on va faire? On va sacrifier les dépenses d'investissement pour laisser les dépenses de consommation courante. Et c'est ça, à mon sens, plus le drame du pays qu'un décrochage européen. On voit qu'on est globalement dans la moyenne et grâce à notre énergie décarbonée, qu'on est plutôt mieux protégé du choc inflationniste que nos partenaires allemands.
Ok, j'entends, je suis pas d'accord, mais j'entends. Et Hervé, quand on voit, franchement, quand on a vu le cornu, on avait l'impression que c'était un gars qui en avait enlevé le chéquier, la carte bleue, il a plus le droit de dépenser. C'est comme un gosse à qui on dit, bon, bah, maintenant, c'est fini, quoi, t'as une carte prépayée et tu peux donner quelques aides. Il y a plus d'argent?
Non, il y a plus d'argent. Ça, c'est vrai.
Enfin, on a envie de dire enfin, non? Non, mais je veux dire, c'est pas enfin, il y a plus d'argent, mais enfin.
On reconnaît
qu'il y a plus d'argent.
Oui, non, on a une situation de compte public qui est mauvaise. On peut prendre le problème comme on veut. On a beaucoup de dettes, on a un gros déficit et avec des niveaux de prélèvement.
Et ça, comparativement aux autres pays, Anne-Sophie, là-dessus.
Non, on est tout à fait d'accord. Okay. Le problème, c'est en effet
les poursuites. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la dynamique de croissance française est métastable. Métastable, ça veut dire qu'elle paraît stable, mais qu'en fait, elle est extrêmement fragile. L'année dernière a été une bonne surprise. Le risque, c'est que cette année, ça soit une mauvaise surprise. Et en fait, je trouve qu'il y a un multiplicateur de difficultés par la confiance. En fait, et la confiance est progressivement minée par les déséquilibres et maintenant par la reconnaissance que l'État, considéré comme tout puissant chez nous, n'est plus à même d'accompagner au moins aussi fortement qu'auparavant.
Rajoutez à ça qu'on va fêter les 2 ans de la dissolution. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas de majorité, qu'on peut rien décider.
Que politiquement,
et ça va durer encore un an.
Dans un pays où on aimait avoir un pouvoir exécutif fort, oui. Il n'est plus fort. En fait, si on dépasse tout ça et qu'on essaie de se projeter, en fait, il faut imaginer des transformations de l'économie française sans appui du budget. Et en fait, c'est ça la question.
Évidemment, mais vous avez raison, mais on ne sait pas faire ça. On ne sait pas faire de croissance sans l'État. Si.
Ben, il va falloir qu'on apprenne cela. Si on regarde deux choses, du côté du travail, donc des gens qui travaillent, des employés, ou du côté des entreprises, du capital, en fait, il faudrait qu'on travaille plus et qu'on se forme mieux. Se former mieux, ça peut signifier dépenser de l'argent.
Plus, c'est mort.
On ne sait pas le dépenser. Donc, je ne sais pas ce qu'on fera. Travailler plus, c'est une volonté politique collective qu'on comprenne. Est-ce que aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui ferait aller non pas vers un consensus, mais un compromis? J'en sais rien.
C'est pas ce qu'on voit dans les programmes des candidats.
Non, pour le moment, on ne le voit pas. Et du côté des entreprises, il faudrait améliorer la productivité. Le niveau de productivité en France n'est pas mauvais. Il y a des trucs qui marchent chez nous. Mais par contre, la dynamique de productivité est très faible. On a une productivité qui stagne plutôt et on n'investit pas beaucoup. Anne-Sophie nous l'a rappelé. Alors, on pourrait dire, la solution, ça serait baisser les impôts. On baissera pas les impôts parce que du côté des comptes publics, on n'y est pas. Donc en fait, il va falloir que l'on réduise le niveau de normes que l'on a dans notre économie, qu'on libère un peu l'entrepreneuriat.
C'est pas là qu'ils sont les économies, elles sont sur les retraites, elles sont sur les dépenses sociales.
Mais c'est
faut pas continuer à faire
ça.
Croire.
Mais je parle pas d'économie. Je pense que
vous parlez de dynamique, mais en fait, ça changera pas l'allongement de la durée de la vie, le fait qu'il y a de plus en plus d'inactifs, le fait qu'on a un système social qui est très généreux.
Non, il faut qu'on travaille plus.
Alors, donc, déjà, je pense qu'il faut encore une fois se baser sur les chiffres. Il n'y a pas de volonté des Français de moins travailler que nos partenaires allemands ou autres. On a juste une structuration du marché du travail. Je vois des sourires, mais c'est vrai, quand on regarde les chiffres de l'INSEE, ce qui se passe, c'est que sur les 25-55 ans, on a une productivité horaire qui est la plus forte d'Europe. Donc, avant moins de 25 ans, en effet, on est beaucoup moins employés. Et entre 52 et 64 ans, on a un taux d'emploi qui s'effondre. Quand vous regardez la productivité horaire, encore une fois, on est au plus haut par rapport aux partenaires européens. Parce que dans les autres pays, ils ont fait les choix d'étaler beaucoup plus la durée de travail. Et donc, notamment pour les 55-64 ans, là, vous avez un taux d'emploi qui est quasiment 10 points supérieur. Parce que, en effet, vous avez aussi des mécanismes qui font que vous pouvez rester beaucoup plus longtemps en emploi. Mais par contre, sur la période 25 ans-55 ans, vous avez une productivité horaire dans les autres pays européens qui est plus faible. Hein. Vous le voyez, dans beaucoup de pays, vous commencez à 8 heures, mais vous finissez à 16 heures. Donc, c'est juste des structurations différentes.
Anne-Sophie, tout à l'heure, je voudrais revenir là-dessus. Parce que tout à l'heure, moi, ma perception, c'est qu'on n'arrive pas à produire de la croissance sans dépenses publiques.
Alors, ça, c'est faux, puisque quand on regarde historiquement, on l'a déjà fait. À mon sens, le grand problème, ce n'est pas les normes, ce n'est pas le public, c'est la désindustrialisation. C'est ça le problème de fond. Quand vous regardez les gains de productivité qu'on avait des années 60 jusqu'aux années 80, quand on était un pays industrialisé et qu'on avait un taux d'industrie dans notre PIB qui était supérieur à 11%, vous aviez une productivité.
Oui, mais ça y est, mais on ne va pas revenir là-dessus. On ne va pas ouvrir des usines. Donc, aujourd'hui, la situation, je vous parle de la situation aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à créer de la richesse sans dépenses publiques, sans faire du déficit et sans faire de la dette.
Vous posez mal la question parce que c'est pas demain vous allez avoir plus d'État, vous pensez que vous allez avoir un niveau de richesse qui va exploser. C'est pas ça. Le sujet, c'est qu'on ne crée pas assez de valeur ajoutée manufacturière qui crée plus de gains de productivité. C'est ça le sujet. On a perdu par rapport à l'avant des industries.
Ça, on va pas le faire.
Si, entre 100 et 150 milliards. Donc si vous couplez, en effet, l'augmentation du taux d'emploi des 55-64 ans, et on voit avec le départ à la retraite, vous avez déjà gagné. Ça, vous pouvez le faire. On peut mettre en place des mesures. Quand on dit les gens ne veulent pas travailler, le taux effectif de départ à la retraite, c'est plus de 63 ans. Et la majorité des Français vous disent que s'ils avaient des dispositifs pour gagner en pouvoir d'achat, ils continueraient plus longtemps à travailler. Parce que vous êtes à la retraite, souvent vous perdez en termes de pouvoir d'achat. Donc il ne faut pas placer le débat sous le ferme idéologique, ils ne veulent pas travailler, etc. Mais sur la structuration du marché du travail et comment on l'organise. Et c'est ça en fait le grand sujet en France qu'on a, notamment par rapport aux pays nordiques qui n'ont pas du tout la même structuration du monde du travail.
Léa.
Deux choses, j'avais une réaction sur la situation française, mais là sur le marché du travail, je trouve que la vision très macro, elle est intéressante, elle est peut-être aussi assez illusoire quand on parle quand même avec les entreprises et la difficulté qu'ils ont non pas à repenser leur modèle social et éventuellement à trouver des emplois pour les personnes qui sont quasiment à la retraite ou presque. c'est tout simplement un problème de compétences. Et dans beaucoup d'industries, l'industrie automobile nous dit, j'ai une base d'actifs d'ingénieurs avec des personnes qui sont compétentes pour monter des moteurs. Et en fait, aujourd'hui, ma voiture, c'est un smartphone sur roue. Donc, il va me falloir des personnes que je n'ai pas.
Non, mais ça, c'est un problème de compétences et de former les gens. Mais je suis désolée.
Et c'est là où je ne pense pas que la problématique, c'est juste de se poser la question du taux d'emploi.
Sur les chiffres, si. Parce que quand on a un taux d'emploi de 10 points...
On n'est pas armé pour ça quand on regarde certaines industries.
On peut tout à fait l'être.
Je ne suis pas d'accord. Quand on regarde certaines industries, et notamment l'automobile est vraiment criante de ce point de vue-là, on prend certains acteurs comme BYD en Chine. Aujourd'hui, ils emploient plus en R&D de personnes que l'ensemble de la population dédiée à l'automobile en Europe, de la chaîne de valeur.
C'est pas ça,
modifié leur modèle.
C'est que par rapport aux autres pays européens, parce qu'il faut se comparer à des pays comme l'Allemagne plus que par rapport à la Chine, vous avez un taux d'emploi chez les 55-64
ans. Oui,
mais c'est une réalité.
Ça, c'est juste les stats. Donc ça, c'est sur
des chiffres. Mais c'est pas ces personnes-là que vous allez modifier dans la structure.
Et en Allemagne, à 55 ans, alors que c'est eux qui sont en effet complètement tués par la Chine sur l'automobile, eh bien, vous avez un taux d'emploi qui est bien supérieur à celui de la France dans ce secteur.
Mais oui,
donc, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de garder les gens en emploi. C'est ça le sujet.
D'accord. Et si on avançait, Alain, vous avez.
Deux mots. Moi, je pense qu'on s'est habitué à la médiocrité et on a des. On a des raisonnements de comparaison, donc on est habitué là-dedans, puis on se compare, donc on a l'impression que ça va à peu près. La réponse, elle sera politique, hein, on le voit que ça sera politique, puisqu'on voit que c'est bloqué et que c'est un vrai sujet. Donc on regarde les programmes des uns et des autres.
Je ne sais pas si la réponse est politique, c'est une réponse de mentalité.
Non, mais attendez, je pense qu'il faudra trouver une solution pour la situation actuelle. Donc je regarde les candidats, leurs programmes, c'est paramétrique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a aucun qui a un projet vraiment de modification. Et je pense que la seule solution pour éviter le choc que tout le monde redoute avec un jour une troïka quelconque qui viendrait en France régler le problème et ça serait d'une violence terrible. Je pense qu'on n'est absolument pas prêt à ça. Donc la seule solution, c'est de trouver un deal avec l'Europe qui nous prêterait, qui ferait un investissement, quelque chose, mais il faudrait une contrepartie de réforme qui aujourd'hui n'est pas...
Mais c'est illusoire.
Mais je sais que c'est illusoire, mais il va bien falloir quelque chose comme ça, parce que en nous-mêmes, on n'a pas cette
solution-là.
Ce qui me
déprime, c'est que tout ce que vous dites est totalement juste, mais je vois pas d'issue.
Alors, il y a une issue. Déjà, il faut là aussi toujours regarder ce qui se passe ailleurs, surtout en Europe. Vous avez des pays comme les frugaux, l'Autriche, qui a aussi 5% de déficit public. Ouais. Vous êtes tout à fait d'accord. Le Royaume-Uni également est à 5% de déficit public. Donc, ce qu'on connaît là, c'est-à-dire un endettement massif qu'on est notamment après le Covid, il n'y a pas que la France.
On est au top.
Non, mais bon, là, c'est des exemples.
Quand vous voulez comparer, ce qui vous arrange.
Je
vous parle à zone euro, vous le dites en zone euro.
Ceux qui vont très bien, c'est en effet plus les pays du Sud, l'Espagne.
Non, mais même la zone euro dans l'ensemble,
on a stigmatisé en disant que ce n'était pas possible. Qui reviennent. Aujourd'hui, c'est la locomotive de l'Europe.
Vous avez vu ce qu'ils ont fait.
Mais grâce à l'Europe, justement.
Oui, ils ont eu le plan européen, ils ont accepté de réduire leurs dépenses sociales.
Non, pas seulement, ils sont aussi massivement réindustrialisés. Regardez comment l'Espagne s'est focalisée. Vous parlez des sous-traitants de l'automobile, vous parlez des énergies renouvelables, mais pas seulement grâce à l'Europe.
Regardez
leur taux de valeur ajoutée par habitant.
Ils ont sabré massivement les dépenses sociales, ils ont sabré les indemnités chômage, ils ont sabré tous les droits à la retraite. Ça a été d'une violence terrible.
Quand vous regardez en termes de volume, ce qui fait que ça crée de la richesse, c'est beaucoup plus l'aspect réindustrialisation que sabrer les dépenses, vous le dites. Et ça a été
aussi, c'est grâce à l'Europe.
Alors, juste Hervé, après on passe au deuxième sujet, parce qu'on a fait la première partie sur le premier sujet. Hervé.
D'abord, les comptes publics, on ne peut pas dire c'est mauvais ailleurs et donc c'est rassurant.
Non, mais personne ne dit ça. Personne ne dit ça. On dit juste que c'est un phénomène macro qui existe partout.
Anne-Sophie, je termine. D'accord. Non, on ne peut pas dire, mais regardez, au Royaume-Uni, c'est pire que chez nous. Non, c'est très préoccupant partout. Quant à l'Espagne, eh bien, quand même, il y a la contribution du tourisme, il y a la contribution du bâtiment à la croissance que l'on a aujourd'hui, il y a aussi la contribution de l'immigration qui entre en ligne de compte. Je pense que c'est un peu se leurrer de croire que la réindustrialisation va marcher en Europe, ou alors il faut qu'on ait une organisation du monde où en fait les chaînes de valeur sont complètement revues, et dans ce cas-là la réindustrialisation, elle passera par une phase antérieure qui sera une phase de crise grave, parce qu'on n'aura plus accès à des tas de choses qui viennent du reste du monde. Donc en fait, dire...
Surtout que la réindustrialisation, un peu pour reprendre ce que disait Léa, je veux dire, là, c'est le cas de le dire, on a une voiture et des métros de retard. Là, pour rattraper le retard par rapport à la technologie chinoise, ça ne va pas être facile.